Je crois que moi, je vais aller un petit peu dans le passé, et un peu bien loin dans le passé, si je puis dire, et je vais essayer de faire un survol, puisque le titre de ma communication est Le peuplement du Maghreb, une histoire de migration plurielle. C'est d'essayer de faire un tableau, de dresser un tableau du peuplement du Maghreb, de comment il s'est construit étape par étape, et de voir un petit peu quels sont les grands déplacements, les grandes migrations qui ont eu lieu tout le long de cette période. Mesdames et messieurs, lorsque nous regardons aujourd'hui la situation du peuplement du Maghreb dans une carte ou sur un texte ou sur un livre, nous constatons d'abord la grande diversité des noms de tribus, la grande diversité des toponymes et des espaces portant le nom de telle ou telle confédération ou de telle ou telle tribu. Nous constatons aussi l'apparence incohérence de la distribution de ces tribus, de ces confédérations, de ces hommes. Au début du siècle d'ailleurs, Émile Gautier disait, on trouve partout n'importe quel nom de tribu en Afrique du Nord, puisqu'il parlait de l'Afrique du Nord à l'époque. Aujourd'hui, pour faire un état des lieux du peuplement du Maghreb, en fait, nous ne disposons ni d'inventaire des origines des groupes les plus importants, même pas les plus reconnus et les plus avoués, ni de contre-épreuves, c'est-à-dire de catalogues géographiques qui répartissent la répétition des mêmes vocables ou des vocables les plus célèbres. Pourtant, combien une telle recherche pourrait apporter d'éléments pour comprendre les grands mouvements des populations maghrébines, les grandes migrations de ces populations. On est donc obligé de nous restreindre pour cela, pour essayer de retrouver ce tableau, à des sources historiques souvent contradictoires, comme nous allons le voir, mais surtout à des légendes d'origine colportées par une tradition orale tenace. Certes, le passé du Maghreb, nous le savons tous, fut très mouvementé. Son histoire est une suite de migrations, de peuplements, à tel point que certains anthropologues considèrent que l'un des traits saillants de l'histoire du Maghreb, c'est le déplacement, la migration, qui les rattache bien entendu à la Méditerranée, mais qui les rattache aussi à l'Afrique en général. Retracer les grandes lignes de l'histoire du peuplement du Maghreb, c'est en fait faire l'histoire d'une migration plurielle. C'est pour cela que notre propos est donc de présenter dans ces grandes lignes les étapes, les grandes étapes qui ont conduit à la carte actuelle. Mais avant cela, je pense qu'il est nécessaire de nous arrêter un petit moment sur un débat qui a animé les historiens et les anthropologues pendant longtemps. Ce débat que nous sentons déjà en filigrane dans tous les textes depuis ceux du IXe siècle jusqu'aux ceux du XXe siècle, en filigrane, nous sentons très bien le débat qui tourne autour de savoir qu'est-ce qu'une tribu, en fait? Qu'est-ce qu'une confédération? D'où viennent ces confédérations? Et d'où viennent ces tribus? Pourquoi on appelle telle tribu les Aïtata, par exemple? Ou on appelle telle autre tribu les Aïtiefelmen? Au siècle dernier, les problèmes de définition des concepts vont aller prendre le pas sur la chronologie. On a commencé, quand on a essayé de faire l'histoire de ces tribus, de ces confédérations, on a commencé à se demander, mais qu'est-ce qu'une tribu? Comment on peut la définir? Quelles sont les origines de ce qu'on appelle les grandes confédérations, les grands lefs qui ont animé l'histoire du Maroc, du Maghreb en général, les Sennhaja, les Masmouda, les Zenata, les Houara. En fait, trois écoles ont commencé à se dégager dès le début. Je les cite rapidement. La première école, c'est celle qui explique la tribu, la construction de la tribu à laquelle nous allons venir dans un instant, par l'ancêtre éponyme. La seconde est celle qui l'explique par la métaphore botanique, et je vais y revenir. Et enfin, celle qui explique la construction de ces tribus et de ce peuplement par la légende. Venons-en d'abord très rapidement à celle de l'ancêtre éponyme. En fait, depuis 1863, le bureau arabe en Algérie prenait en considération dans le référentiel foncier le cadre patriarcal. On dit souvent que telle terre, tel secteur appartient au fils d'un tel, Ibn ou Aït. Et nous revenons à chaque fois à ce fils de tel. En 1886, Masqueray, dans son livre « La formation des cités », reconstituait autour de la tribu des groupes sédentaires ayant un ancêtre éponyme auquel se réfèrent toutes les composantes du lef. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il essaye de regrouper, selon la légende, ce que lui racontent les gens, toutes les tribus qui se disent descendantes de tel ou tel ancêtre. Ce qui est, bien entendu, ce qui lie cette explication aussi à la légende. Difficile d'accepter tout cela. Parce qu'il y a une extrême variété d'origines, ce qui élimine, bien entendu, et ce qui rend relativement caduque l'explication par l'ancêtre éponyme, donc par la consanguinité. D'où le fait que le père éponyme devient pratiquement une fiction. À partir de 1941-42, Gautier, dans Le passé de l'Afrique du Nord, et Marseille dans La Berbérie du IXe siècle, considèrent qu'il y a une extrême variété des origines, que recouvre donc cette question d'ancêtre éponyme, et qu'il faudrait trouver d'autres explications pour que nous puissions comprendre la carte qui s'offre à nous des différentes origines des populations dans l'ensemble du Maghreb. Et par exemple, je vous donne juste un exemple, les Louetta, par exemple, tribu célèbre, nous la retrouvons en Libye, à l'époque médiévale. Nous les retrouvons aujourd'hui, nous retrouvons deux groupes portant le même nom près de Benguerir et aussi dans le sud algérien. Ceci veut-il dire que toutes ces tribus, toutes ces fractions appartiennent au même père, à la même origine? Je ne le pense pas. Il y a les explications par la métaphore botanique. Certains anthropologues ont commencé à se dire, à considérer les populations comme un arbre. Et je vous cite simplement ce que dit Douté en 1903. Les divisions des groupes actuels de population constituent généralement non des rameaux issus d'une même souche, mais des boutons, des greffes continuelles à porter sur un pied primitif devenu difficile ou impossible à discerner. Plus tard, Auguste Bernard évoque aussi le fait que la tribu se développe pas seulement par intusception, mais par juxtaposition. Deux formules d'ailleurs promises au classicisme en ce genre d'études. Elles seront complétées par la formule de Gautier qui compare le peuplement du Maghreb à une mosaïque. Et il a raison quand on observe seulement la carte des différents peuplements et des différents toponymes. Vient ensuite l'explication par la légende. La légende vient nous dire que les peuplements du Maghreb, par exemple les Berbères, et c'est une légende que Ibn Khaldoun d'ailleurs a héritée, se composent de deux grandes fractions, les Brans et les Boutr. Et à partir de ces deux grands pôles, nous avons toutes les tribus de Berbères qui se dressent. Ce qui fait un peu sourire les anthropologues aujourd'hui, puisqu'il est difficile d'accepter ou d'admettre une telle hypothèse. Enfin, l'explication par l'histoire qui prend le relais, mais l'histoire telle que nous la raconte la tradition orale, et elle ne semble pas, comme vous allez le voir, elle ne semble guère supérieure à l'explication par le système généalogique dit indigène, car elle s'en tient à l'image de dispersion accomplie à partir de foyers primitifs. Certes, le passé du Maghreb fut mouvementé. On n'y peut minimiser ces grandes marches des peuples berbères ou arabes, ces expansions dynastiques et cette migration plurielle qui se déroule tout au long des siècles. En fait, la manière dont les évolutions qui ont produit le schéma actuel ont pu s'exercer nous échappe totalement. Voici ce que nous savons en gros. Les historiens de l'époque du protectorat, dont Gautier, Marsay et Terrasse, divisent les berbères en trois grandes confédérations. Je vous les ai citées il y a un instant, les Masmouda, les Senhaja, les Znata, pour ne citer que les plus grandes, bien entendu. En fait, ils avaient pour eux l'autorité du grand maître, Ibn Khaldoun, qui a conféré à l'historiographie européenne en arabe une sorte de tutelle, en lui laissant en héritage sa théorie. Celle-ci organise toute l'histoire du Moyen-Âge sous forme de succession de grandes lignées. D'abord le règne Sanhaja, qui remonte du sud avec les Almoravides. Ensuite le règne des Masmouda, qui descendent des montagnes du Deren, c'est-à-dire de Haut Atlas. Et enfin l'histoire des Zénètes, qui s'étendent sur l'ensemble de l'Algérie, des tels algériens, des hauts plateaux algériens, et aussi des hauts plateaux de l'oriental marocain, et qui viennent prendre le pouvoir au Maroc sous le titre de Mérinides. Réellement, on peut douter de cette répartition que nous donnent ces historiens à partir d'Ibn Khaldoun, parce que des Sanhaja, nous en avons un certain nombre au Maghreb. Les paysans des grandes Kabylies et les chameliers d'Ibn Tashfin. Comment peut-on rapprocher ces deux Sanhaja? Ensuite, des Zenata, les bédouins mobiles de l'Oriental et des hauts plateaux algériens, avec le courtois, pieux et obstiné du Mzab, qui est aussi, bien sûr, un Zenet. Ce qui remet en question, bien entendu, cette explication par l'histoire que nous propose Ibn Khaldoun et qui a été reprise par les historiens de la période coloniale et même continuée par les historiens aujourd'hui, les historiens maghrébins, dans leur ensemble et qu'ils acceptent en tout état de cause. Il est admis aujourd'hui, selon les sources mises en avant par les nouvelles monographies, que l'histoire des migrations au Maghreb peut se résumer selon un schéma approximatif suivant. Je vous le résume, je crois qu'il me reste quelques minutes, une dizaine de minutes, très rapidement. Je vous le résume donc comme suit. Au Moyen-Âge, le tableau qui s'offre à nous, à partir bien entendu d'Ibn Khaldoun, puisque c'est sa thèse qui permet de clarifier ce peuplement, au Moyen-Âge, nous avons, comme le dit Ibn Khaldoun, d'abord les Berbères, ensuite les Arabes. Nous avons les Berbères, donc Brans et Boutr, et nous avons les Arabes, l'Ibn Hilal, l'Ibn Maqil et l'Ibn Sulaym. En gros, alors, d'abord, les grandes confédérations berbères. L'une des plus grandes, c'est celle des Sanhaja. Elle occupe un espace très vaste et elle va jusqu'à la Mauritanie, jusqu'au nord du Sénégal. Elle s'étend jusqu'au Haut Atlas, tout l'anti-Atlas. Elle arrive dans le Sousse, mais avec la conquête almoravide, elle s'étend encore plus haut. Elle va même jusqu'en Andalousie. Nous retrouvons des Sanhaja dans le Rif. Nous les retrouvons en Andalousie et nous les retrouvons sur tout le couloir de passage des Sanhaja. Il y a eu des pertes, bien entendu, de Sanhaja en route qu'on retrouve dans le Moyen Atlas, mélangées aux autres tribus Zenet ou Msmouda. Le deuxième grand groupe, c'est celui des Msmouda. Les Msmouda, qui sont les habitants traditionnels et anciens du Haut Atlas. Le Haut Atlas dans toute son extension, c'est-à-dire occidental jusqu'à la mer pratiquement, et oriental jusqu'à l'entrée en Algérie, jusqu'à ce qu'il se rencontre, jusqu'à ce qu'il rencontre Sijil Massa, et qu'il rencontre les grandes tribus Zenata des Tel. Le schéma se dessine donc ainsi, mais c'est un schéma qui évolue. On ne peut pas fixer ces tribus de cette manière-là. Il y a tout le temps une évolution et une migration. Enfin, les Zenata, qui occupe donc les grands plateaux et qui relie Msmouda et l'ensemble des tribus du Maghreb central et de l'Ifriqiya. Des groupements qui semblent moins importants, par exemple comme les Huara, qu'on retrouve un peu partout, mais qui ne constituent pas une grande confédération comme les Msmouda ou les Sanhaja. Ibn Khaldoun évoque ainsi les tribus berbères qui professaient le judaïsme, comme les Jrawa, tribus qui habitaient les Aurès, et à laquelle, même si il y a un doute historique là-dessus, appartenait la fameuse El-Kahina, qui s'était opposée au El-Fetch, à la période de Uqba ibn Nafi'a. Et il semblerait que même cette Kahina ne soit pas juive, puisque nous en avions discuté ce matin avec mon ami Monsieur Chitrit. Il y a aussi les Nefoussa, où il y a beaucoup de berbères, berbères de l'Ifriqiya, les Fendlawa, les Mdiouna qu'on retrouve aujourd'hui à l'extrême nord du pays Chaouya, les Behloula qu'on rencontre dans les régions du Moyen Atlas jusqu'à Sfro et dans la région, Et il y a aussi des communautés juives importantes dans les Riatas, près de Taza, et dans les Fezza. Et ce sont tous là des Berbères du Maghreb al-Aqsa, du Maroc, bien entendu. À côté de ces grandes migrations, vous voyez le schéma, nous avons les grandes tribus berbères, arrivent, mais en 4 siècles, en 5 siècles, arrivent les populations arabes. On en a fait toute une histoire, c'est le cas de le dire, avec l'interprétation de ce qu'a dit Ibn Khaldoun à propos des Bédous et à propos des Arabes qui sont venus détruire et dévaster l'Afrique du Nord et donc le Maghreb. Mais en fait, tout ceci a été remis en question et rediscuté. L'essentiel, ce que nous pouvons retenir, puisque nous ne parlons que des populations et de leur installation, c'est que trois grandes vagues arrivent. La première arrive jusque dans le Gharb. Elle donne les grandes populations que nous connaissons aujourd'hui, les Bni Melk, les Khlot, les Bni Hassan, ce sont les populations Bni Hillel. Ce sont les Bni Hillel. Ils arrivent par Taza et s'installent dans le Gharb et touchent jusque sur les montagnes du Rif et ils arrivent vers la Chaouia. Arrive une deuxième vague. Il faut dire qu'elles arrivent peut-être aussi en même temps. Ne les imaginons pas comme des vagues marines, mais simplement, en prenant l'échelle de la longue durée, nous les voyons ainsi. Arrivent donc les Bni Maqil, qui s'installent dans le sud, qui vont au-delà des Atlas, qui s'installent au sud de l'Algérie, dans les grands plateaux, mais surtout au sud de l'Atlas, qui s'installent dans le pays du Sousse, et qui vont plus loin, qui vont dans le Drac, qui vont dans toutes ces régions-là, et qui vont dans le Sahara, et qui s'installent. Et ce sont ces tribus Maqil qui font que maintenant, il y a beaucoup de gens qui habitent le Sousse, des tribus berbérisées qui parlent le berbère et qui se disent des Chorfa et qui se disent donc arabes. Ce qui est bien entendu possible puisque nous avons toute une vague qui est passée par le sud, c'est la vague des Bini Hilal. Enfin, la grande vague des Beni Souleym qui est venue s'installer et occuper l'espace central. Nous avons donc trois grands espaces. Nous avons les espaces berbères, les espaces arabes, mais ne nous trompons pas. Ne prenons pas pour argent comptant. Il me semble la théorie qui dit que quand les populations arabes, les Beni Maqil, les Beni Souleym et les Beni Hilal sont arrivés, les Berbères sont remontés vers les montagnes. Ce n'est pas du tout vrai. On sent très bien qu'il y a eu beaucoup de mélanges et beaucoup d'interpénétrations, si bien que certaines tribus dites Sanhaja parlent arabe, peut-être mieux que celles qui se disent arabes dans le pays, par exemple, du Gharb, du pays des Beni Hilal. Enfin, je vais rapidement. Il y a eu beaucoup de mutations depuis le Moyen Âge, depuis cette période d'Ibn Khaldoun. Nous arrivons au temps des Chorfa au Maroc, mais des Ottomans en Ifriqiya, en Tunisie et en Algérie. En ce temps-là, il y a eu la remontée générale des différentes tribus du Sud qui ont dépassé l'Atlas, qui se sont installées dans les plateaux et sur le Tell. Au Maroc, par exemple, nous avons les migrations des Oudaya, des Khlot, mais des migrations souvent politiques, puisque les gouvernements de l'époque, et particulièrement les Saadiens, ont beaucoup fait bouger les tribus. Ils les ont installées en tribus guiches et ils les ont déplacées selon, bien entendu, la politique de l'époque. Ils les ont amenés du Gharb, par exemple, les Khlot, ils ont été amenés dans le Haouz, ce qui les a mis en contact avec les Msmouda. Et on a déplacé les Oudaya pour les réinstaller près de Rabat. Autrement dit, nous avons là une vraie carte de peuplement et de migration qui s'installe progressivement. Enfin, les migrations contemporaines, quand je dis contemporaines, je parle bien entendu surtout du 19e siècle et du début du 20e, où nous avons encore une poussée due à la sécheresse et due à la disette qui a fait que les Aït-Atta, qui étaient tout au sud, entre les Bni Maqil et les Msmouda, ont repoussé les populations vers le nord et sont venus s'installer pour repousser les Étieflemen, repousser les Étiussi, installés dans le Moyen Atlas aujourd'hui, qui débordent déjà sur le plateau du Saïs, et vous avez les Étsrochen et toutes les anciennes. Et nous avons bien entendu les Zaïr et les Zemmour qui étaient installés dans le Moyen Atlas, mais qui sont venus sur les différents plateaux. Je dirais simplement, pour conclure, que D'abord, pour le XXe siècle, on trouve le schéma est très fragile. La carte que nous avons est une carte qu'on peut comprendre à partir de ce que j'ai dit, mais qui est difficile à interpréter. Je conclurai en disant que je pense que nous n'avons pas de certitude et que si vous êtes venu écouter de moi des certitudes sur l'installation de ces populations, je pense que je vous ai plutôt envoyé dans le doute et dans l'interrogation. Et je pense que c'est une bonne chose pour pousser les gens à faire de la recherche dans cette direction. Je vous remercie.